Alors, notre invité aujourd'hui est Jean-Didier Wagner, qui est conservateur à la Bibliothèque nationale de France, au département littérature et arts, et qui est responsable de la numérisation. Donc, nous lui devons beaucoup, puisque beaucoup des textes que je cite, ce sont des textes que j'ai lus sur Gallica, le site remarquable de la Bibliothèque nationale, que je vous invite donc à consulter. Il est par ailleurs un érudit, un spécialiste du XIXe siècle, qui a édité des auteurs souvent délaissés, mais aussi les frères Goncourt. Et alors la raison pour laquelle je me suis tourné vers lui, c'est parce qu'il a publié il n'y a pas très longtemps une grosse anthologie de 1500 pages à peu près, avec Françoise Sestor sur les bohèmes 1840-1870, écrivain, journaliste, artiste, publié chez Champ Vallon. Et c'est évidemment un texte qui est voisin de la réflexion que je mène sur le chiffonnage ou la chiffonnerie, hein, en relation avec la bohème. Donc, il me semblait tout à fait pertinent de l'inviter pour parler de chiffonniers littéraires et petits journaux.
Je vous remercie. Je voudrais tout d'abord remercier Antoine Compagnon de son invitation dans ce lieu prestigieux. Alors, j'ai donné comme titre à mon intervention « Chiffonniers littéraires et petits journaux » et il faut que je m'en explique. Si le chiffonnier a à voir avec l'industrie du papier, les chiffonniers dont je vais traiter sont des écrivains et des journalistes, plus précisément des écrivains-journalistes, donc l'épithète de chiffonnier pour les qualifier est métaphorique, ainsi que souvent péjorative. Alors pourquoi ? D'abord parce que globalement, le journalisme littéraire n'est pas au XIXe siècle une profession, il ne confère pas un état à celui qu'il pratique, et si certains écrivains sont journalistes, et journalistes recherchés pour leur signature, on peut penser à Honoré de Balzac, Théophile Gauthier, Barbé d'Aurevilly, ils sont toujours perçus comme des auteurs qui écrivent aussi dans le journal. Il n'en est pas de même d'une autre population qui, pour des raisons alimentaires, est condamnée à écrire dans le petit journal, comme le montre cette vignette du Rabelais, où les journalistes tournent le cabestan de la chronique sous le fouet de leur rédacteur en chef. Cette population médiatique, on la désigne sous le nom de bohème littéraire. Aussi, je débuterai en définissant ce que l'on entend au XIXe siècle sous cette appellation de bohème, perçue souvent comme un monde de chiffonniers littéraires. Le second terme est celui de petit journal. Il définit un format particulier de publication périodique auquel appartient le Rabelais. Il ne faut pas entendre ici « petit journal » en référence au célèbre petit journal que le financier Polydore Millau lance en 1863 à destination d'un lectorat populaire. Millau a choisi ce titre car l'expression « petit journal » est très célèbre. Elle renvoie au secteur de la petite presse et dans le même registre à l'armée des petits journalistes qui l'alimente. Voici un dictionnaire dont certains noms vous seront certainement connus, Commerson pour le Tintamarre, par exemple, Villemessant pour le Figaro. Qu'est-ce qu'un petit journal ? Comment fonctionne-t-il ? Quelle littérature propose-t-il dans sa hôte ? Ce seront les questions qui feront l'objet d'un second volet. Pour anticiper, le terme « petit » dans cette expression doit être entendu en opposition aux grands journaux. D'ailleurs, une célèbre charte cryptée a retrouvé cette opposition très XIXe siècle entre grand et petit journal. L'a-t-elle fait consciemment, je ne saurais le dire. En tout cas, elle a retrouvé cette polarité du média journal. D'une part, un journal sérieux, politique et toujours un peu ennuyeux. De l'autre côté, un journal bouffe, satirique, parodique, ironique, mais toujours en dernière instance, littéraire et artistique. Nous terminerons sur une synthèse chiffonnière que je nommerai en accord avec le thème « Chine médiatique » et qui n'a bien sûr rien à voir avec l'empire du milieu. Commençons avec l'invention de la bohème. Pour tout le monde, la bohème, ce sont des images de mansardes, de grisettes, de jeunes poètes au café, des histoires qui se déroulent dans des ateliers d'artistes. Il en a été de même au XIXe siècle et très tôt. Si la bohème est devenue aujourd'hui un cliché parisien à l'usage des tour opérateurs faisant visiter le Quartier Latin ou Montmartre, c'était déjà le cas dans les années 1850. Pour l'exposition universelle de 1855, on vendait déjà un guide Paris Bohème pour tout savoir des curiosités de la capitale et un Paris gagne petit qui décrit petits métiers et chiffonniers. La bohème s'est imposée progressivement comme un spectacle, une mise en scène, une fantasmagorie à l'usage du public de masse, mais en même temps comme une menace ressentie par le champ littéraire. C'est ce concept qu'il s'agit d'interroger. Comme toute notion, celle de bohème littéraire réclame une définition. C'est le Grand Dictionnaire universel de Pierre Larousse, à nouveau, qui nous offre la plus développée. Celle-ci est anonyme, mais on l'attribue parfois et probablement à Jules Vallès. Larousse consacre plusieurs pages à l'histoire de cette notion. Il s'interroge sur le changement d'accentuation du terme, l'accent circonflexe de bohème devenant grave, et en vient à une définition, non donnée par comparaison avec la vie errante et vagabonde des bohémiens, à une classe de jeunes littérateurs ou artistes parisiens qui vivent au jour le jour du produit précaire de leur intelligence. Mais au XIXe siècle, bohème est polysémique et vise trois réalités. Pour chacune, je renverrai un texte important dans l'imaginaire du XIXe siècle. La bohème bohémienne proprement dite, qui dans Paris se produit au carrefour dans des spectacles forains. On parle alors de saltimbanque. Ce sera un immense sujet de curiosité textuelle et iconographique au cours du siècle, et point n'est besoin d'en dire plus. Elle trouve son illustration médiatique dans les bohémiens de Dumersan, qui était à la fois conservateur aux monnaies et médailles de la Bibliothèque nationale et auteur dramatique, et son personnage de paradiste, Bill Boquet. Ensuite, on use de ce terme pour parler de la petite criminalité dont l'emblème est une pièce, les bohémiens de Paris. On parle de filous, de charlatans, de petits escrocs, qu'incarne le protagoniste d'une autre pièce, Robert Macaire. Ici se trouve aussi le bohème, figure parisienne de la pauvreté, aussi célèbre que le chiffonnier, survivant grâce à des expédients et au parasitage. Enfin, c'est une représentation attachée à l'homme de lettres, aussi bien qu'à l'artiste. Je l'ai représenté à travers deux petits journaux, le sans-le-sous en version autographiée et le bohème de Charles Pradier, qu'avec d'ailleurs consulté Walter Benjamin à la Bibliothèque nationale pour la capitale du XIXe siècle. Production propre au XIXe, la bohème littéraire qualifie l'être au monde, l'éthos, d'une génération de prétendants à la carrière littéraire et artistique à partir de la monarchie de Juillet. Ce que je vais en dire comme du petit journal se situe entre 1840 et 1870. La bohème se définit par un mode de vie en rupture avec les normes bourgeoises et déterminée par la jeunesse, la camaraderie, la vie dite insouciante et errante de ses membres. Elle constitue une contre-culture métissée avec celle des ateliers de peinture. Elle pratique la blague et la mystification, mais aussi des contre-cultures potachiques des étudiants du quartier latin qui est son véritable terroir. Pourquoi est-ce plus précisément autour de la fin des années 1830 et du début de 1840 que l'idée de bohème littéraire est formalisée et va connaître un tel développement ? À partir de la monarchie de Juillet, la société parisienne, par son attraction sur la province, accueille davantage de générations instruites qui ne proviennent pas seulement des élites ou de la bourgeoisie. Pour ces jeunes, les études offrent deux options traditionnelles, faire carrière dans le droit ou la médecine. Mais le romantisme et le saint-simonisme ont fortement valorisé la vocation artistique, la mission de l'artiste, et c'est bien en marge des études que naît un vouloir être poète, dramaturge ou peintre. Au sein des classes moins fortunées, la petite bourgeoisie commerçante, petites gens, gens de maison, on assiste dans cette période à une hausse notable du niveau d'instruction et ce même tropisme vers les professions artistiques. Le deuxième facteur est sociologique et politique. L'égalité des citoyens a été décrétée depuis la Révolution française, une égalité de droit, mais pas de fait. Là se trouve la source d'un malentendu. Il n'y a pas de régime égalitaire dès que l'on pose problème en termes de disposition ou de talent. Tout le monde n'est pas Balzac ou Baudelaire. Aussi, les postulants à la vie littéraire sont-ils souvent aveuglés sur leurs capacités personnelles et vont bâtir leurs rêves sur du sable parfois. Ce sont des victimes du livre, comme l'écrira plus tard Vallès. Reste que devenir écrivain se déploie comme fantasme générationnel. Les impétrants vont construire leur scénario auctorio, c'est un concept de José Luis Diaz, sur des fictions, deux au moins. D'abord, bien sûr, Honoré de Balzac, un grand homme de province à Paris, puis en 1851, Les scènes de la vie de Bohème de Murger. Ces deux ouvrages seront responsables d'autant de drames en littérature que le Werther de Goethe. Si l'égalité sociale est garantie par la charte, la division de la société en ordre a vécu. La Révolution pensait que ce phénomène de déclassement serait positif et permettrait de favoriser le mouvement social. Aussi, le terme déclassement n'est-il pas alors aussi négatif qu'on l'entend aujourd'hui? Il ne l'est d'ailleurs pas dans certaines professions où l'on peut lire l'histoire d'enrichissement ou d'ascension fabuleuse. Mais dès que l'on considère le monde de l'art, il en est tout autrement. Nous avons alors un nombre de candidats à la vie littéraire en excédent par rapport aux capacités d'absorption du champ littéraire. Dès lors, c'est le chômage intellectuel, la nécessité de se déporter vers des travaux alimentaires offerts par l'industrialisation de l'édition et de la presse. Presque tous les dictionnaires du XIXe siècle ont été rédigés en grande partie par cette bohème. Ce déclassement sera accompagné de ressentiments. On n'est plus homme de lettres que par intermittence. Vivant quotidiennement de petits travaux de librairie ou de journalisme, et l'une des expressions souvent accolées à cette situation est celle d'existence problématique, d'ailleurs développée dans Paris ou le livre des 101, par un texte de Frédéric Soulier. Le dernier facteur est économique et médiatique. Sur le marché du travail, la modernisation de la production en ce qui nous concerne, l'industrialisation progressive de la presse et de l'édition, sans parler de la vogue des arts industriels, requiert une nouvelle main-d'œuvre. De nombreux candidats à la vie littéraire vont se partager entre ces tâches. Le journalisme devient à partir des années 1845-1850 l'une des activités principales de la bohème et la ressource de son salaire littéraire. Surtout qu'en même temps se développe une petite presse littéraire et artistique qui la connecte au champ et sera l'un des vecteurs des scénographies bohèmes qui installe cette réalité dans le public. La bohème, comme l'écriront les Goncourt, va devenir un pouvoir dans les années 1850-1860, pouvoir essentiellement médiatique. Reste que coexistent deux représentations de la bohème. Balzac offre une représentation du bohémianisme dans Un prince de la bohème, dont le protagonisme a pour nom la Palferine. L'auteur y dresse le portrait d'une bohème que l'on peut qualifier d'aristocratique, qu'il définit ainsi. La bohème, qu'il faudrait appeler la doctrine du boulevard des Italiens, se compose de jeunes gens tous âgés de plus de 20 ans, mais qui n'en ont pas 30, tous hommes de génie dans leur genre, peu connus encore, mais qui se feront connaître, et qui seront alors des gens fort distingués. On les distingue déjà dans les jours de carnaval, pendant lesquels ils déchargent le trop-plein de leur esprit, à l'étroit durant le reste de l'année, en des inventions plus ou moins drôlatiques. À quelle époque vivons-nous? Quel absurde pouvoir laisse ainsi se perdre des forces immenses? Il se trouve dans la bohème des diplomates capables de renverser les projets de la Russie s'ils se sentaient appuyés par la puissance de la France. On y rencontre des écrivains, des administrateurs, des militaires, des journalistes, des artistes. Enfin, tous les genres de capacités d'esprit y sont représentés. C'est un microcosme. Si l'empereur de Russie achetait la bohème moyennant une vingtaine de millions, en admettant qu'elle voulut quitter l'asphalte des boulevards et qu'il la déporta à Odessa, dans un an, Odessa serait Paris. C'est le versant fashionable de la bohème que l'on pourrait baptiser de bohème dédorée comme les blasons. Et ce passage de Balzac sera constamment repris, pastiché, et on a longtemps pensé que le personnage de la Palferine était inspiré par Alexandre Privat d'Anglemont, intime de Baudelaire et premier véritable reporter moderne au sein du monde des chiffonniers parisiens sur lequel nous reviendrons. Mais chiffonnier littéraire renvoie à une autre bohème, la bohème en version démocratique ou prolétaire. Démocratique car elle jouit de l'égalité de droit et à ce titre de la liberté de penser et de publier. Prolétaire car elle vit une forte précarité et est perçue comme concurrente dangereuse. C'est la bohème des chiffonniers littéraires. Elle entre dans le monde des représentations sociales quelques mois après le texte de Balzac, dans une série anonyme qu'un petit journal célèbre, dont vous avez déjà parlé, le Charivari, publie dès 1842 sous le titre « La bohème littéraire ». On y stigmatise ces quarts d'hommes de lettres, ces littératuriers, ces fléaux littéraires, comme dit le Figaro. Cette série qui sera imitée fait penser qu'elle pourrait être, à la suite de la physiologie du journalisme qui l'a précédée de quelques mois, être le projet d'une physiologie qui n'a jamais abouti à être publiée en volume, donc pas de physiologie du chiffonnier ni de la bohème. Cela reste en tout cas une hypothèse possible. En tout cas, ce texte marque pour l'instant l'entrée de l'expression « bohème littéraire » dans le lexique autour de 1842. Le texte pointe une classe d'hommes de lettres, pauvres, déclassés, souvent ridicules, s'offrant comme de véritables journaliers de la librairie et des journaux. Nous sommes là dans le monde des chiffonniers littéraires, des bohémiens, des saltimbanques, aux marges même du champ littéraire. D'autant que dans ces mêmes années, la revue L'Artiste s'inquiète de cette poussée de prétendants à la carrière littéraire, dont l'ambition rompt avec les pratiques traditionnelles de parrainage et de légitimation telles qu'elles pouvaient avoir lieu auparavant, pensant au petit cénacle romantique. Il y a un affrontement dès lors entre une génération plus âgée qui sont considérés comme écrivains, hommes de lettres, et ces aventuriers hors champ, issus en grande partie des milieux de la petite presse. À partir de 1845, Henri Murger va inverser le stigmate. La bohème va s'offrir en une autre lecture et se constituer comme une mythologie du XIXe siècle, pour reprendre Roland Barthes. Premier temps, Murger publie dans un petit journal, Le Corsaire Satan, journal auquel a collaboré Baudelaire, une série de courtes nouvelles sous un titre générique, Scène de la bohème, décrivant une nouvelle classe de candidats à l'aventure littéraire. Il va se servir de son expérience. Fils d'un couple de concierges, il s'est lié avec un groupe majoritairement composé de jeunes artistes pauvres, provenant des classes les plus humbles de la société. Ce groupe se donne comme but la réussite artistique par le travail acharné et l'acquisition d'une maîtrise. D'abord sans nom, il va être baptisé les buveurs d'eau au début des années 1840. On trouve autour de ce groupe, outre Murger, les jeunes Champfleury et Félix Tournachon, qui, surnommé Tournadar par les buveurs d'eau, prendra le pseudonyme de Nadar. Les buveurs d'eau vont se dissoudre vers 1842. Murger, Champfleury, Nadar se tournent vers la petite presse et vont s'y consacrer pleinement. C'est l'époque de la bohème de l'hôtel Merciol, dans la rue des Canettes. Elle est proche de Saint-Sulpice et on y voit toujours cette sculpture. C'est un moment où cette bohème du petit journaliste mène une existence libre, amoureuse, bien évidemment, avec accompagnement de grisettes au célèbre Café Momus. Deuxième temps, à partir des articles de Murger, publiés dans Le Corsaire Satan, Théodore Barrière, un carcassier, au théâtre, c'est celui qui constitue, je dirais, la structure dramatique d'une pièce, propose à Murger d'en faire une adaptation au théâtre. Ce sera La vie de bohème, qui va être un énorme succès. Toute la jeunesse du quartier latin, mais aussi un public plus large, va vibrer dans cette pièce mêlée de chants. Il y a là des effets référentiels fortement appuyés. Le public sait que ce qui est représenté sur scène repose sur des personnages réels. Ils sont même présents dans la salle. Et Alexandre Chasne, le chaunard du roman, a même prêté sa pipe à l'acteur qu'il incarne sur la scène. On ne fait pas mieux dans la jubilation de la référentialité. La bohème, ça existe, la pièce dit vrai. Troisième temps, l'éditeur Michel Lévy, à l'affût d'un coup de librairie, publie la pièce, mais propose aussi à Murger de réunir ses nouvelles sous la forme d'un roman. Il paraît en 1851 sous le titre de Scène de la bohème, et dès la seconde édition sous celui de Scène de la vie de bohème, avec une introduction de Murger qui installe la vie de bohème comme une dimension de la vie littéraire depuis les Grecs, comme on dit, jusqu'au XIXe siècle. Cette publication, outre le fait qu'elle dote toute une jeunesse littéraire d'un scénario auctorial, va fonctionner jusqu'à la fin du siècle pour les jeunes écrivains comme une véritable fiction professionnelle. Murger est promu dès lors bohème officiel. Bien évidemment, ses succès sont contrebalancés par des publications qui dénoncent l'idéologie de cette vision par trop sentimentale de la bohème. La parution des Hommes de lettres de Jules Edmond de Goncourt en 1860 revient sur cette montée de la bohème avec un roman à clé qui se déploie autour du plus grand titre de la petite presse, Le Figaro d'Hippolyte de Villemessant. Ils ne sont pas les seuls à contester à la bohème sa valeur de cliché pour la bourgeoisie. Baudelaire, dans une préface au premier roman d'un écrivain, Léon Cladel, dénonce aussi le fantasme bohème. Le livre a pour titre, un titre très réussi, « Les martyrs ridicules » et apparu en 1862. Enfin, la notion de réfractaire est pour Vallès plus opératoire et après avoir donné un long article dans le Figaro le 13 avril 1865, « Les irréguliers de Paris », il publie un livre sous le titre « Les réfractaires » qui contient ce texte important du XIXe siècle, « Les victimes du livre ». Le petit journal est bien évidemment présent dans tous ses romans et je dirais que, si je puis dire, il faut l'ouvrir à présent. Dès les années 1840, la bohème s'est installée dans le petit journal. Il faut définir rapidement ce qu'est ce type de publication. Il n'y a pas véritablement de concept et c'est là la difficulté de l'entreprise. D'ailleurs, au XIXe siècle, à la Bibliothèque nationale, on classait ces petits journaux un peu dans toutes les codes, parfois en histoire, en littérature, en poésie ou bien dans des grandes codes polygraphiques. Alors, pour la définition, dans le champ des médias, on peut dire que l'ensemble se définissant comme petit journal ou petite presse peut être caractérisé d'abord par la matrice du journal. L'adoption du format folio qui le distingue de la revue, avec la présence d'attributs propres à ce support, une vignette de titre traitée graphiquement surmontant la une et servant de titre et d'identité au journal, le multicolonnage des articles et un rubriquage récurrent. J'ai choisi ici la causerie de Victor Cochina, écrivain antillais, avocat à la cour et directeur de petits journaux, dans lequel ont publié Albert Glatigny, Charles Baudelaire, Philoxène Boyer et bien d'autres. Pourtant, la première difficulté, c'est que ce format a été aussi adopté par plusieurs autres types de publications. La presse professionnelle et spécialisée, celle des cordonniers, boulangers et des coiffeurs, la presse à l'usage de la jeunesse, la presse à l'usage des dames, la mode, la presse à l'usage des familles, les illustrations, toutes les illustrations dérivées de la grande illustration anglaise, et même la presse à destination des chiffonniers. Et voilà le journal des chiffons et de l'effiliochage qui contient lui-même son propre feuilleton, Les Mystères de la Haute. Pourtant, lorsqu'il est question de petit journal, de petite presse ou de petit journalisme, il n'y a entre les années 1840 et 1870 aucune ambiguïté. On parle alors d'une presse littéraire, de mœurs, de publications satiriques, parfois illustrées, ce que l'on définirait comme la communication culturelle au sens large aujourd'hui. Preuve de cela, l'histoire du petit journal, qui a été écrite dans les années 1840-1860, est essentiellement par ses acteurs. Des études novatrices, comme celle d'Eugène Attin sur l'histoire de la presse, n'ont pas manqué de relever que le petit journal s'inscrit dans une histoire longue. On le fait débuter avec la Gazette de Loret et les Gazettes de Hollande, on l'articule étroitement avec les bureaux d'esprit, les salons, et le genre épigrammatique, la nouvelle à la main, de même avec les publications satiriques sous la monarchie et jusqu'à la presse révolutionnaire. Si on rencontrait déjà beaucoup de petits journaux sous la Restauration, il faut attendre la monarchie de Juillet, le Second Empire, pour trouver des textes qui traitent du petit journal. Le petit journal est alors annexé par des écrivains bohèmes, Alfred Delvaux, Firmin Maillard, Philibert Rodebrand, et perçu comme porteur d'une subculture, d'une langue, d'une histoire, à laquelle se référeront par la suite de très nombreux journaux, jusque sous la Troisième République, et qui reprendront des titres du passé comme des héritages et des mots de passe. Le petit journal, c'est la hôte de l'histoire de la presse au XIXe siècle, où la profession puisera idées et formules. Il y a une association latente entre le travail du chiffonnier et celui du petit journaliste. L'un comme l'autre gagne sa vie en collectant, en triant, en classant, en recyclant de l'imprimé. Mais c'est de cette industrie, de cette fabrique médiatique, que naît un nouveau journalisme dont nous allons parler à présent. Si c'est par ces sujets que le petit journal se sépare de l'univers des grands journaux, il faut dire un mot cependant sur leurs différences structurelles. Le petit journal est bien évidemment plus modeste, moins coûteux, Son financement est l'œuvre d'un bailleur de fonds qui peut être un libraire, un imprimeur, un mécène, un annonceur ou bien un homme de lettres disposant de capitaux. Le rédactionnel se limite souvent à un rédacteur en chef, un secrétaire de rédaction et un gérant. Les collaborateurs sont payés ou non en fonction soit de leur rang dans la hiérarchie des collaborateurs, soit des ressources disponibles. Ils sont souvent choisis dans les mêmes réseaux. On y trouve des individualités les plus diverses, parfois une ou deux plumes plus connues, des petits journalistes quasiment professionnels et largement des pigistes qui relèvent de la bohème des lettres et des arts. La durée d'un vie d'un petit journal est largement inférieure à celle d'un quotidien. Les titres les plus célèbres n'ont duré que quelques années, mais la plupart n'ont pas dépassé la trentaine de numéros, parfois même un seul numéro spécimen. La spéculation, autant dire, dans ces entreprises est très importante. Le petit journal peut être politique et militant en fonction de la législation, mais dans la période que j'envisage ici, globalement 1840-1870, ce type de publication est fortement contraint. Le petit journal ne traite pas de politique ou d'économie sociale, car l'arsenal juridique est pesant. Aussi s'est-il replié sur la presse de spectacle, de mœurs, de littérature, dans des genres qui sont la nouvelle à la main, l'épigramme, la nouvelle, la scénette, la critique d'art ou dramatique. La presse satirique s'inscrit aussi dans une littérature qui n'est pas seulement parodique. Ainsi, les grands journaux d'André Gide, un peu plus tard, La Lune, L'Éclipse, La Lune Rousse, La Petite Lune, publient de nombreux poètes liés au mouvement parnassien, à la mouvance autour de Vallès, plus tard au groupuscule moderniste de fin de siècle. Cette littérarité est totalement connivente avec les tropismes culturels du public. Charles Moncelet, un petit journaliste dont le talent reste mésestimé, a toujours considéré le petit journal comme un atelier de littérature. J'aime le petit journal parce qu'il représente la liberté littéraire dans son expression la plus étendue. Le grand journal, c'est la timidité. Le petit journal, c'est l'audace, monde renversé. Faisons honte au grand journal, au bonheur, avoir un endroit où l'on peut dire tout ce que les gens graves ne peuvent pas ou ne veulent pas dire. Pour ma part, combien d'essais j'ai apporté au petit journal, combien d'idées j'y ai hasardées, combien de formules j'y ai introduites sans être jamais empêché par un directeur en cravate blanche glacée. Au contraire, le directeur du petit journal m'a toujours dit « Faites ce que vous voudrez et comme vous voudrez » et Moncelet de conclure « Donc si je suis un peu moi, présomption inouïe, je le dois au petit journal. » C'est dans le petit journal que s'invente la littérature qui prendra place en volume dans les librairies. C'est là que naît le poème en prose, que se déploie la nouvelle, que des formes surgissent de la fantaisie des chroniqueurs et où l'on joue même avec le médium. Deux exemples, la une du journal Paillasse qui reprend le décor en damier de la toile d'une paillasse et un numéro du hanneton, Bleu Ciel, pour commémorer l'ascension du ballon de Nadar, le géant. C'est la langue qui reste un fort marqueur. Elle s'est construite contre celle des grands journaux et dans les langues maternelles de ses acteurs, celle du vaudeville et de la physiologie de la littérature panoramique. Ces écritures se métisseront dans la petite presse, mais face à une forte concurrence de titres, la langue de la petite presse a dû constamment se reconfigurer, innover, jusqu'à se pasticher, se parodier elle-même, tombant parfois dans une circularité névrotique. Aussi, est-ce le paradoxe qui la caractérise le plus, avec des personnalités comme Aurélien Scholl, Rochefort, Vallès, démonter la doxa en la décalant vers le rire et souligner les ridicules du siècle, comme Diogène oppose son cynisme à Athènes, telle est la tâche du chroniqueur. Un Diogène dont la lanterne et le bâton passent entre les mains du journaliste chiffonnier parisien. Le chiffonnier est perçu comme un Diogène moderne. Le journaliste se veut lui aussi Diogène et le journaliste rejoint ainsi le chiffonnier. Si l'on a vu le caractère insultant de l'expression chiffonnier littéraire, Jules Janin se l'approprie et imagine l'écrivain en chiffonnier de lui-même, collectant ses mots, ses impressions, ses sentiments. Hotte et carnet à la main, je dirais, les Goncourt commencent alors à recueillir ce qui fait une vie d'écrivain. Mais c'est probablement dans le rapport qu'entretiennent le chiffonnier et le petit journaliste avec Paris, la grande ville, que les deux figures se superposent. Appartenant toutes les deux à des petits métiers, ils font partie de la même culture urbaine. D'ailleurs, le métier de chiffonnier est souvent celui des déclassés. L'un et l'autre ouvrent Paris au lecteur, non le Paris officiel, mais des petits Paris. Le monde du petit journal entretient ainsi une forme d'harmonie avec le petit au sens 19e. L'opposition entre grand et petit structure ce monde, grand et petit théâtre, petites et grandes actrices, grands auteurs, ce que l'on nomme les illustrations, les hommes du jour, et les petits auteurs, les minoresses, la bohème, grandes villes et petites villes, grandes industries et petits métiers, plus largement entre ce qui est premier et second, central et latéral, officiel et officieux, jusqu'à la plèbe dont parle Michel Foucault. Mais c'est l'art militaire qui est souvent utilisé comme métaphore pour parler du petit journalisme. On parle constamment des francs-tireurs ou des tirailleurs du petit format, des irréguliers de la littérature ou de l'art. Si ces métaphores sont souvent reprises tout au long du siècle, c'est qu'elles sont reliées à la notion de petite guerre qui désigne la guerre en petit, la guerre de harcèlement, la guérilla. Bien évidemment, il y a aussi le petit article, véritable marchandise médiatique, comme on dit, article de Paris. Alors, je ne lirai pas tous les extraits. Chiffonnier et journaliste sont deux petits métiers, et Edmond Texier, qu'a déjà cité Antoine Compagnon, reprend une ancienne de la petite presse à ce sujet. Je me demande si l'homme qui apporte aux journaux l'effet Paris neuf n'exerce pas un petit métier. Et je réponds affirmativement, il bat le pavé du matin au soir pour surprendre le fait qui, plus ou moins rédigé, lui rapportera de 2 francs à 2 francs 50 centimes. On le rétribue à raison de 2 sous la ligne, mais au-delà d'un certain nombre de lignes, il crève. Je veux dire que les lignes excédant la limite déterminée ne lui sont pas payées. Il faut donc qu'il condense son petit drame. Il est vrai qu'on tient moins à l'authenticité du fait qu'à la façon dont il est représenté. Là, comme presque partout, c'est plutôt une question de sauce que de poisson. Et un fournisseur de faits paris ordinaires a toujours un accident en réserve au bout de sa plume. On trouve souvent ce type de remarque. Il existe dans Paris des artisans journalistes dont la plume est un crochet et dont le feuilleton est une hotte dans laquelle ils entassent précieusement toutes les ordures qu'on jette des magasins littéraires. Celle-ci est anonyme dans le Satan, elle est probablement de Petrus Borel. Elle vise un de ses collègues, peu importe. Cette armée de petits journalistes décrit Paris, ses rues, les plus déshéritées comme ses boulevards éclairés au gaz. Le tintamarre s'est même imaginé un chiffonnier attitré à la rédaction. Vous l'avez ici en caricature. Il se nomme Bitume et publie dans le tintamarre ce qu'il a trouvé dans Paris. C'est bien évidemment généralement des nouvelles drôles et, je dirais, des paradoxes et des épigrammes. La littérature panoramique, et je reviens sur ce qu'a dit tout à l'heure Antoine Compagnon, je repasse derrière lui, avait repris à Le Sage son diable boiteux qui soulevait les toits des maisons pour y révéler ce qu'il s'y passait. Le diable à Paris troque sa fourche pour une hotte et un crochet, et cette figure va connaître un destin important et offrir aux petits journaux l'occasion de nombreuses variations sur un titre qui est promesse de révélation sur la capitale. Voilà toute une déclinaison de titres autour de la figure du diable. Le chiffonnier forme avec le journaliste une figure pleine d'électricité mentale, comme dirait André Breton, ou l'Aragon du paysan de Paris. Même pratique quasi-anthropologique de la flânerie, de la glane, de la cueillette, de la chasse, de la collection, même regard de sémiologue, même exaltation de l'aventure sur fond souvent de mésaventure. Aussi, au moment de la ruée vers l'or, en Californie, on en vient à comparer Paris à un placeur, tandis que les Anglais, eux, surnomment leur chiffonnier Goldfinger, chercheur d'or. La petite presse va produire une masse importante de textes dans la tradition des tableaux de Paris, des pathologies de la vie quotidienne, des physionomies de la population parisienne. De fortes solidarités rapprochent petits journalistes des populations marginales. Se multiplient les textes de type flâneur, chiffonnier, avec Alfred Delvaux, La Bièvre, Les Dessous de Paris, Les Heures parisiennes, Charles Moncelet, Les Tréteaux de Paris et Alexandre Privat d'Anglemont, dont il faut maintenant parler. Le monde de la bohème, du petit journal et des chiffonniers littéraires ne peut laisser de côté la silhouette d'Alexandre Privat d'Anglemont, qui, après avoir été un véritable prince de la bohème, dilapidant sa fortune, est devenu si pauvre que les truands du faubourg Saint-Marceau s'excusaient d'avoir tenté de dévaliser. C'est un héros de la vie moderne, vivant l'instant, vagabondant dans la ville, à l'affût de toutes les épiphanies. Privat semble même doué d'ubiquité. On le croise partout, dans la rue, les cafés, les bals, mais aussi dans les salons chics et aristocratiques. Seigneur du macadam, il conjugue dandysme et bohémianisme et est à lui seul un lien entre le romantisme de 1830 et le réalisme et la fantaisie des années 1850. Il n'est pas étonnant dès lors qu'on était amené à voir en lui un modèle possible de la palferine d'un prince de la bohème, d'Honoré de Balzac. Il nous faut donner ici un peu dans la prosopographie bohème. Privat d'Anglemont était né en 1815 à Sainte-Rose, Guadeloupe, fils d'une mulâtresse et d'un père aristocrate qui ne l'a pas reconnu. En 1825, il est envoyé en métropole pour poursuivre ses études. En 1833, il est reçu bachelier et envisage une carrière médicale. Mais Privat se tourne alors vers le journalisme. Il débute au magasin pittoresque et au magasin universel, au musée des familles et au Figaro, et la suite de sa biographie est une collection de tessons documentaires et de témoignages parfois contradictoires. En 1840-41, il se lie d'amitié avec Charles Baudelaire puis Théodore de Bainville. Quatre lettres qu'il adresse à Eugène Sue en 1843 tracent un portrait de sa situation précaire d'écrivain post-romantique dans le Paris d'alors. Il y développe cette notion, à nouveau reprise de Frédéric Soulier, d'existence problématique et trace un tableau amer de son quotidien. Outre quelques écrits de circonstances, il rassemble en 1854, sous le titre de Paris Anecdote, une sélection des articles qu'il a consacré au Paris underground, les industries inconnues, la Chine d'Aubert, les oiseaux de nuit, la villa des chiffonniers. Quelques mois après son décès, le 19 juillet 1859, à la Maison du Bois, mais Antoine Compagnon l'a dit tout à l'heure, Alfred Delvaux réunit dans le volume Paris inconnu un important corpus de textes. Comme le souligne la table des matières de Paris Anecdote, le Paris de Privat est la ville des barrières, des fortifications, des cités de chiffonniers, des zones populaires et misérables de la capitale, le quartier de la place Maubert, l'ancien 12e arrondissement, le quartier latin. Ce seul volume parisien qu'il a publié de son vivant, Paris Anecdote, propose sa série Les industries inconnues qui ont contribué à sa célébrité en paraissant à partir de décembre 1852 dans la presse. Il y rapporte une longue visite dans les quartiers miséraux de Paris qui peut être considérée comme un texte relais dans l'histoire du reportage, au plein sens du mot, reportage moderne. Privat s'y sépare du texte traditionnel où choses vues, métiers et cris de Paris confèrent à la ville charme, poésie et nostalgie. Il ne néglige pas pour autant ici le pittoresque, mais s'y donne une autre tâche, celle d'observer et de témoigner des conditions de vie d'une population marginale, de les sortir de l'anonymat, de réhabiliter les exclus et de dissiper les préjugés en proposant à l'abonné une véritable enquête sur le terrain. Les industries inconnues est une série d'articles destinés à s'insérer dans le journal sous les rubriques variété ou feuilleton, mais Alexandre Privat d'Anglemont va vite faire des émules. Paris Anecdote et Paris Inconnu seront souvent démarqués. Outre Victor Furnel, ce qu'on voit dans les rues de Paris, 1858, on peut citer Les Dessous de Paris, déjà dit d'Alfred Delvaux en 60, Les Célébrités de la rue de Charlie Riart en 64, Les Industriels du Macadam d'Élie Frébeau en 68, plus tard et de manière très réactive, Les Métiers Infâmes d'Alexandre Lamotte en 73, Les Trappeurs Parisiens, un des plus beaux titres au 19e siècle de Paul-Louis Imbert en 67, Paris horrible et Paris original de Georges Grison en 82, Paris étrange de Louis Baron en 83, je vous suis désolé, c'est le bibliothécaire qui parle, L'art et les moyens de gagner sa vie à Paris de Fervente Vasquez, publié vers la fin du siècle. Mais les articles de Privat seront parfois cités comme documents dans des études sociales comme Le travail en France, monographie professionnelle, tome 4, 1887, et La bohème du travail de Joseph Barberet en 1889. Nous ne reviendrons pas ici sur les rapports de Privat et de Baudelaire, même si les industries inconnues peuvent basculer parfois dans un fantastique urbain jusqu'à offrir des épiphanies susceptibles d'inspirer quelques proses lyriques, reste que Privat a joué son rôle dans la perception et la constitution du Paris de sa génération. D'autres textes de la petite presse investissent la ville nocturne, l'attente, celle des barrières, des quartiers malfamés, des tapis francs. Ils décrivent des micro-sociétés, des métiers bizarres, production monstrueuse du capitalisme, inventorient les signes urbains, initient le lecteur des romans feuilletons aux tribus parisiennes. Ils jouent les passeurs entre le public bourgeois et des figures qui emblématisent souvent leurs propres conditions d'écrivain déclassé, perception qui trouvera sa forme parfaite à nouveau chez Baudelaire. On ne peut négliger les dessins de Gavarni, dessins parisiens et londoniens, et le voyage qu'il a entrepris avec les Goncourt en 1952 à la découverte des bas-fonds. Un texte de Dickens, « La clé de la rue », publié dans la Revue britannique, s'offre pour ses journalistes comme un art poétique et une méthode pour investir la ville. À l'intérieur de ce monde de l'exclusion, les bohémiens rejoignent les saltimbanques, dont l'image jusqu'à la fin du siècle, pensons au chat noir, finira par se superposer à celle du poète et de l'artiste, les deux unis socialement dans une fonction foraine, offrant un cirque des arts et des lettres. On pense bien sûr au beau livre, au portrait de l'artiste en saltimbanque de Jean Starobinski. Si ces textes post-balzaciens ont leur part dans l'invention de Paris, un autre mouvement complémentaire du premier est la revisitation du passé, la quête d'une parentèle littéraire à partir des grotesques de Théophile Gautier, mouvement d'exhumation et de réappropriation d'un corpus d'écrivains et de personnages, peut-on dire marginaux, en tout cas selon l'expression de Moncelet, d'oublier et de dédaigner, qui se poursuit tout au long du siècle. Certes, il relève de la fascination d'une bohème érudite pour la réappropriation d'un passé dans un esprit compilateur et collectionneur, car, outre le café, la bibliothèque est le refuge privilégié de la bohème, et les emblèmes dont nous parlons sont souvent des originaux de l'Ancien Régime, se juxtaposant parfois avec des silhouettes proprement 19e, naufragées dans la société bourgeoise. Elles sont pieusement recueillies au moment même où les arts entrent dans le monde de la production et de la reproduction industrielle, comme la nostalgie d'une aura, pour reprendre Walter Benjamin. Toutes ces évocations qui parfois tournent à l'invocation de l'Ancien Régime contre la démocratie nourrissent l'imagerie de l'écrivain excentrique, souvent malheureux. Je crois que j'ai consommé tout mon temps ou j'ai 5 minutes. C'est bon. J'ai 2 images encore. Cette démarche trouve son texte générique dans la nouvelle d'Étienne de Jouy, Le chiffonnier littérateur, histoire d'un chiffonnier qui semble échappé d'un conte d'Hoffmann et qui compose une encyclopédie borgésienne avec les papiers trouvés dans la rue. On pense aussi au chiffonnier de la mascarade de la vie parisienne de Champfleury qui se bricole un musée avec des affiches mises au rebut. Pour terminer et saluer Vincent Lenné, qui je crois viendra parler ici même, on peut joindre à cet imagier chiffonnier cette allégorie de la revue anecdotique travestie en chiffonnière dans l'affiche imaginée par Célestin Nanteuil pour la même revue. Et dans ses mémoires inédits, le rédacteur en chef, Laurédan Larchet, l'a décrit ainsi. Dans le fond s'épanouissait une bande d'excentriques, poètes insensés, bas-bleus anéculottés, rapins incompris, savants cocasses, piquant du crochet au bas du mur où s'amoncelaient leurs produits, une chiffonnière idéale envoyait le plus drôle à sa hôte en souriant avec malice. Ses ailes symbolisaient la rapidité de l'information, son écharpe légère et flottante annonçait la nécessité de gazer certaines choses, sa manœuvre symbolisait à merveille notre spécialité. Quant à cet hors-tex, le second, que Firmin Maillard, bohème, bibliographe, sous-bibliothécaire à la Sainte-Geneviève, a joint à son ouvrage sur les publications de la rue pendant le siège de la Commune, un chiffonnier ramasse tracts et journaux et réaffirme ce que soutenaient déjà Alfred Delvaux et l'éditeur Poulet-Malassis qui décollaient et collectaient en 1848 les affiches révolutionnaires pour les conserver. Ça, c'est de l'histoire. En conclusion, si ces petits médias, longtemps délaissés, ont pesé dans le champ littéraire et artistique, c'est qu'ils ont été un espace hors barrière de création discursive et graphique et ont constitué une opportunité pour ces artistes marginalisés par le déclassement social, mais aussi globalement par une pratique artistique au sein d'une société marchande et industrielle. Une culture des marges et du recyclage obsède ce monde. Cela se déploie d'abord dans la continuité de l'esthétique excentrique du romantisme de 1830, et la seconde est liée au moins à 2 choses. D'abord, au modèle d'une économie souterraine dont Paris inconnu d'Alexandre Privat d'Anglemont offre une description qui a amené à fondre les figures du chiffonnier et du journaliste Walter Benjamin, comme du chiffonnier et du poète lyrique Baudelaire. Ensuite, pour les petits journaux, confrontés à l'éternel retour de leurs tâches, la nécessité de chiffonner tant sur le macadam parisien que dans la bibliothèque royale et impériale à la recherche de poétique indigène. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup pour ce bel exposé qui a fait, qui a bien fait le tour de cette question, hein. Chiffonnage et petits journaux. J'avais souvent pensé que la fortune du mot reportage en français, qui a pris très très tôt, était liée à la proximité avec le mot rapportage. Le reporter est un rapporteur. Et on a joué avec cette proximité dans la langue familière. Hein. Le rapporteur, c'est encore une fois le mouchard ou le délateur. Et parce que le mot est très 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 rapide, a très rapidement pris en français, reporter. Appuyez sur.
Pardon. Tout à fait. Et puis, dans le Baudelaire de Benjamin, lorsqu'il parle de Bohème, d'ailleurs, il parle de la Bohème de la conspiration, c'est-à-dire de celui qui va trahir, qui va rapporter, etc. C'est tout à fait vrai. Et en fait, toute la petite presse est un univers du rapportage. C'est un univers même qui va jusqu'à la délation, il faut le reconnaître. Certains pratiquaient le chantage vis-à-vis des actrices en disant si vous ne nous payez pas, d'une certaine façon, on montera une cabale contre vous. Une cabale, bien sûr, imprimée. Donc, ce n'était pas un univers qui était, comment dire, très, très fréquentable. Mais le rapportage, oui, très important à l'intérieur de la petite presse, surtout, par exemple, le Figaro de Villemessant, les nouvelles à la main, tout cela. On rapporte immédiatement. Et on va même jusqu'à essayer de se procurer des correspondances privées pour les publier à l'intérieur du journal le même jour. Quoi.
Donc, c'est l'un des points qui rapproche... Enfin, je crois que vous avez raison de faire du journaliste du petit journal une forme du chiffonnier, peut-être même avant les écrivains.
Oui, tout enfin, à
vous
fait.
Avez montré l'image là de Gensu en oui. Chiffonnier, hein, avec je la montrerai plus tard, mais avec la plume en guise de crochet. Ouais. Mais au fond, le modèle, vous avez raison de penser que le modèle est celui de la petite presse oui. qui nous mène à
la petite presse, c'est très difficile. Benjamin, dans sa philosophie de l'histoire, nous dit que le présent nous amène à offrir une nouvelle lisibilité au passé. C'est tout à fait vrai. Si l'on compare la révolution numérique aujourd'hui avec la révolution médiatique de l'époque, on s'aperçoit que l'émergence de la petite presse correspond un peu, d'une certaine façon, à la nécessité de se construire des sites identitaires, de se construire, je dirais, pas des blogs, bien sûr, c'est assez anachronique, mais de se construire des identités sous forme imprimée, puisque l'imprimé, ils sont à l'intérieur d'une révolution d'imprimé, dans une révolution du journal, comme ce qu'a dit Dominique Khalifa et Alain Vaillant dans l'article sur la civilisation du journal. Ils collent vraiment avec... Ils utilisent le support qu'ils ont à leur disposition pour faire de la littérature pour les uns, pour faire du rapportage pour les autres.
Et alors, ce qui est intéressant aussi dans ce que vous avez montré, c'est cette reprise même. Bon, je suis content que vous ayez insisté sur Privat d'Anglemont, parce que ça paraît...
Ce qui est un grand mystère.
En effet, les textes parmi les plus beaux, hein, oui. dans cette étude des petites industries. J'avais cité tout ce qu'il y avait sur ce quartier, hein, oui. sur le Clos de Latran, là, juste ouais. en face. Et effectivement, c'est lui qui en parle le mieux.
Il a créolisé Paris. On a l'impression qu'il a créolisé Paris, c'est-à-dire qu'il a il fait un Paris en village, mais un vrai village. C'est-à-dire, alors qu'on parle de chiffonniers ou de petites industries, lui nomme les gens, raconte leur histoire, je dirais s'installe pratiquement dans le quartier. Et c'était un quartier dangereux parce qu'il est arrivé à un autre personnage, Marc Trapadoux, qui a voulu faire une enquête sur le marché du chiffon, d'être obligé de se faire, protégé par des gens du milieu, parce que c'était un univers qui était quand même un petit peu trouble. Et
Privat d'Anglemont, je dirais, naviguait aussi bien entre les salons, pas de la grande aristocratie, mais de la petite aristocratie parisienne, et les bas-fonds de Paris. Et ce personnage a été, je pense toujours, ce type de personnage, quelqu'un comme Jacques Vacher pour le surréalisme, vous voyez-vous, quelqu'un qui va de tout d'un coup révéler une sorte de maître à penser, une sorte de... Ou Villiers-l'Isle-Adam qui, lorsqu'il s'asseyait au café, commençait à parler. Tous les petits symbolistes autour de lui étaient là en train de l'écouter et de noter tout ce qu'il disait. À chaque fois sortait une idée de nouvelle, de poème, etc. Et Privat d'Anglemont était un personnage comme ça. C'est une légende et je crois qu'il y a s'il y a deux grands bohèmes au XIXe siècle, il y a Murger, mais je mettrais bien avant Privat d'Anglemont, ça c'est sûr. Et puis le fait qu'il fréquente Baudelaire, qu'il fréquente Banville, on ne sait jamais si qui a copié l'autre en fait. On a retrouvé un chercheur qui s'appelle Willy Alant Lima, qui est un spécialiste de Privat d'Anglemont et de la littérature caraïbe. A retrouvé une nouvelle qui s'appelle La Grande Coquette et qui est le modèle de La Fanfarlo. Et il l'a soumise à l'époque, dans les années 1980, à Claude Pichois, qui faisait l'édition de La Pléiade. Et il était un peu interloqué. Voilà, Privat d'Anglemont est un mystère, mais un mystère poétique, en fait. Un mystère qui invite à la lecture, invite à le lire. Ça se lit très, très bien, je dirais. Ça se lit toujours. C'est d'une inventivité constante.
Mais il faudrait qu'on le réédite.
Voilà.
Il faudrait qu'on le réédite. Ben non. C'est compliqué parce que vous avez montré la couverture. Le Paris inconnu, c'est une addition du Paris
voilà. Anecdote. Voilà. On avait ce projet-là avec François Sestort pour l'anthologie de la Bohème, mais on aurait fait une anthologie Privat d'Anglemont. Mais en fait, il faut remonter. On ne connaît pas toutes les originales. Elles sont disséminées dans des journaux tout à fait improbables de temps en temps. Et il faudrait faire une publication de type chronologique. Voilà. Mais il y a des nouvelles. J'ai retrouvé des traces de Privat d'Anglemont sur les industries inconnues dans le magasin des années 1838-39. Je pense, c'est anonyme, mais je suis persuadé que c'est Privat d'Anglemont qui commence déjà à décrire Paris à l'intérieur de cette revue. Le fait que la petite presse, pour une bonne part, offre des articles de temps en temps qui sont confondants, quoi, mais anonymes, pose vraiment de... On est très souvent frustrés, en fait. Mm-hmm. Hein, mais tout Paris, moi je pense au livre L'invention de Paris, au livre Les deux Paris aussi, qui sont de très beaux livres, en fait Paris s'invente essentiellement dans cette presse, parce que tous les journalistes de cette presse sont à la fois des vaudevillistes, hein, et ça c'est très important pour le nombre de scénettes qu'il y a dans la petite presse, de revues de fin d'année, qui sont généralement très drôles. Même Verlaine en a fait, je dirais, dans la presse de Le Guillois dans les années 70. Tout cela, d'une part, et deuxième part, parce qu'ils sont tous aussi dans la littérature panoramique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans la physiologie. Donc il y a une sorte de melting pot de genre. C'est vraiment une fabrique de littérature, qui est difficilement, je dirais, on commence grâce à la numérisation aujourd'hui de pouvoir la dépouiller. Mais on me demande souvent combien il y a de petits journaux, c'est très difficile à estimer, combien de petits journaux, je dirais, utiles, intéressants, c'est quelques centaines. Maintenant, de petits journaux qui répètent d'autres petits journaux ou des tentatives, j'ai parlé des journaux spécimens. On a des journaux, par exemple, le même journal, le même jour, avec des titres différents. En fait, la personne décidait, comme du merchandising, disait quel titre va marcher le mieux, et puis on prendra le titre qui marche le mieux pour le vendre. C'est-à-dire que dans cette civilisation de la réclame et du puff, dont Barnum est en fait le grand héros, ils ont inventé pratiquement la société contemporaine. Ils ont épuisé toutes les possibilités du média un petit peu très très tôt. Et ensuite, après, ils se répètent. Ils ont tendance, bien évidemment, à se parodier, à se pasticher, à se répéter.
Bien, écoutez, merci beaucoup pour cette présentation. Je crois que c'était très utile.